sang d'Europe, Juliette Garbrand.
Les conflits mémoriels se multiplient à travers l'Europe, souvent à l'initiative de mouvements nationalistes de plus en plus puissants. En Pologne, c'est l'attitude du pays pendant la Seconde Guerre mondiale qui a fait débat récemment. Avec cette décision controversée, le gouvernement a nommé Beata Szydło au conseil du musée d'Auschwitz. C'est la vice-présidente du parti ultraconservateur Droit et Justice au pouvoir, le PiS. Et cette nomination a déclenché la démission de 4 membres du Conseil qui dénoncent une politisation de l'instance. C'est un reportage de notre correspondante Sarah Bakaloglu.
Nous sommes dans la ville d'Auschwitz-Chim, près de Cracovie, devant les camps de concentration d'Auschwitz. De l'autre côté de la rue, ouvriers et pelleteuses sont à l'œuvre dans un nuage de poussière, préparant le terrain pour un nouveau musée dont l'inauguration est prévue l'année prochaine. Dorota Mleczko, sa directrice.
Au départ, le musée devait s'appeler Les Justes près d'Auschwitz, mais ça a déclenché une grande polémique et on a dû changer pour le nom actuel.
Pour éviter toute concurrence et confusion, le lieu s'appellera finalement le musée de la mémoire des habitants des terres d'Auschwitz-Chim. Son objectif, mettre en avant l'aide apportée par les Polonais des alentours aux prisonniers d'Auschwitz. Pour la directrice Dorota Mleczko, que nous retrouvons dans son bureau temporaire devant une série d'objets qui seront exposés l'an prochain, construire ce musée était nécessaire.
Souvent, les gens qui visitent le camp, qu'ils soient de Pologne ou d'ailleurs, se demandent comment les habitants ont réagi à ce qu'il s'y passait. C'est essentiel qu'on puisse donner des éléments de réponse. Nous avons des exemples de femmes des environs qui se rassemblaient et qui préparaient des soupes. Lorsqu'une partie des prisonniers sortait travailler dans les camps, et quand c'était possible, elles achetaient l'attention des gardiens allemands pour pouvoir leur donner ces soupes. Dans ce musée, on va mettre l'accent sur ce côté positif, sur ce que les habitants des environs ont fait de bien. Mais on ne dit pas qu'il n'y a jamais rien eu de négatif.
Mettre l'accent sur les attitudes positives des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et non sur les cas individuels de collaboration avec les Allemands, c'est la politique mémorielle mise en place par le gouvernement conservateur. Fin 2017, le vice-premier ministre polonais avait déclaré que l'ensemble de la nation polonaise méritait un grand arbre au mémorial israélien de Yad Vashem, construit en hommage aux victimes de la Shoah. Une glorification à l'excès, selon l'historien Jan Grabowski.
Toute discussion sur la Shoah se dirige tout de suite ici en Pologne vers les Justes polonais qui ont apporté de l'aide à des Juifs, comme si ces Polonais-là étaient représentatifs pour l'ensemble de la cité polonaise pendant la guerre, ce qui n'est pas le cas. Comme je dis, on ne peut pas parler des Justes polonais sans parler des Polonais qui ont fait quelque chose tout à fait contraire. Il faut savoir que 1%, un fichu 1% des Juifs polonais ont survécu la guerre. Et c'était avec une complicité, avec l'antisémitisme qui était ici. Donc ce sont les choses qui aujourd'hui disparaissent dans cette propagande nationale.
Cette année, l'historien a été condamné en justice à s'excuser dans une affaire de diffamation pour une note de bas de page dans un ouvrage de 1600 pages évoquant notamment des cas de complicité de Polonais dans les crimes commis contre les Juifs. Une affaire qui a suscité beaucoup de réactions à l'étranger, tout comme l'adoption en 2018 d'une loi sur l'Holocauste menaçant de poursuites judiciaires ceux qui accusent le pays d'être responsable ou co-responsable des crimes commis par les nazis. Dans le petit jardin du centre communautaire juif de Cracovie, son directeur, Jonathan Orstein, reste préoccupé des conséquences de cette loi.
Je pense que cette loi va avoir des effets à long terme sur les Polonais et sur le fait qu'ils ne veuillent pas vraiment creuser ce qui s'est réellement passé ici pendant la guerre. Et je trouve que c'est dommage, car ça me paraît plutôt sain que les Polonais puissent comprendre qu'ils ont été des victimes en 39-45, mais qu'ils ont aussi parfois fait des victimes. Et leur dire qu'ils sont soit simplement des héros, soit simplement des victimes, c'est infantiliser la société.
Mais pour l'Institut de la mémoire nationale qui emploie près de 2000 employés, un travail de sensibilisation à l'international est nécessaire car l'histoire de la Pologne reste trop méconnue, notamment la souffrance des Polonais dans un pays occupé par les Soviétiques et les Allemands pendant la guerre. Dans des bureaux imposants, nous y rencontrons son vice-président Mateusz Szpetma.
Si le monde savait ce qu'était la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, comment fonctionnaient les camps et qui décidait quoi, il n'y aurait pas de problème. Mais on est obligé de l'expliquer et c'est très difficile. Un jour, nous avons fait une enquête auprès d'étudiants au Canada. Nous leur avons demandé qui étaient les nazis. Et les Polonais sont arrivés en deuxième. Si le pays avait collaboré à la déportation des Juifs, je comprendrais. Mais cela n'a pas été le cas.
Ce mois-ci, le ministre de l'Éducation a déclaré qu'il était temps d'en finir avec la pédagogie de la honte dans les programmes d'histoire et laisser la place à une pédagogie de la fierté, se concentrant sur ce qui est beau, je cite, dans l'histoire de la Pologne.
Dans les Balkans, la Croatie et la Serbie se sont lancées ces dernières années dans une vaste réécriture de leur histoire de la Seconde Guerre mondiale. Zagreb tente de minimiser les crimes du régime Ustachi, allié des nazis, tandis que Belgrade réhabilite des figures de la collaboration. Objectif, effacer des mémoires la lutte des partisans antifascistes. Les explications de Simon Rico.
Depuis l'éclatement de la Yougoslavie socialiste, les nouvelles autorités au pouvoir à Zagreb, à Belgrade et dans les autres républiques aujourd'hui indépendantes n'ont qu'une idée en tête, faire oublier que pendant un demi-siècle, ces États ont vécu ensemble sous un régime socialiste qui trouvait sa légitimité dans les résistances contre l'occupant nazi allemand et fasciste italien durant la Seconde Guerre mondiale. Après les terribles années 1990, quand la guerre faisait rage, attisée par les violentes propagandes nationalistes, on avait assisté au début du nouveau millénaire à une désescalade. Mais le balancier s'est de nouveau inversé, surtout après 2015. Les ultra-conservateurs sont revenus au pouvoir en Croatie et la Serbie a replongé dans le nationalisme. Les deux voisins se sont alors relancés dans une douteuse opération de réhabilitation de ceux qui ont collaboré entre 1941 et 1945. Les Ustaši qui ont gouverné la Croatie et les Tchétniks en Serbie, ces monarchistes qui ont commencé par résister avant de se rallier aux nazis par anticommunisme. Sans oublier Milan Nedic, le pétain serbe. Ces mouvements et ces figures, victimes de terribles massacres à la libération, puis cloués au pilori par le pouvoir socialiste, sont donc aujourd'hui dédiabolisés. Fusillé en 1946, Draža Mihajlović, le chef des Tchétniks, a ainsi été officiellement réhabilité par la Serbie en 2015, au point d'être désormais considéré comme un résistant plus authentique que les partisans. En Croatie, la loi interdit de réhabiliter les dirigeants Ustaši pro-nazis, mais du coup on essaye de rééquilibrer. Leur totalitarisme d'extrême droite serait même moins grave que le totalitarisme communiste. Signe inquiétant, ces nouveaux récits nationaux niant l'importance de la résistance antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale prennent vite racine. En Serbie comme en Croatie, les études montrent que les jeunes sont aujourd'hui la génération la plus anticommuniste, la plus conservatrice et la plus nationaliste.
En 2020, l'Allemagne a enregistré un nombre record de crimes commis par l'extrême droite. C'est ce qu'annonçait le ministre allemand de l'Intérieur début mai. Ces infractions, qui vont du salut hitlérien au meurtre, ont connu une hausse de 5,7% sur un an. Mais partout, des militants se dressent pour contenir la propagation du racisme, comme cette dame de 75 ans, infatigable militante antifasciste. Un reportage de David Philippot.
Eine Sendung aus dem Außenstudio Maltin 98,7.
Son programme, ce jour-là, débute par une interview dans une radio associative pour la plus grande fierté de l'animatrice Amina Kanou.
Soyez la bienvenue, Irmela. C'est formidable qu'une personnalité connue comme Irmela vienne dans nos régions retirées, elle qui promeut l'antifascisme dans tout le pays. Et cela me donne énormément de courage de voir qu'à son âge, on peut encore être très active.
Irmela Schramm est en tournée dans l'Allemagne de l'Est, dans cette région où l'extrême droite prospère. À l'occasion du centenaire de la naissance d'une grande résistante allemande, Sophie Scholl, assassinée par les nazis, elle est venue pour l'inauguration d'une exposition qui lui est dédiée. L'œuvre d'Irmela est entre guillemets particulière. Des photos de slogans et symboles racistes prises dans les rues d'Allemagne pour mieux les dénoncer. Elle montre une carte du pays constellée de petits points rouges.
Là, c'est partout où j'ai sévi. Il y aurait pu en avoir d'autres si la carte avait été plus large. Avant, c'était les étrangers dehors. Aujourd'hui, c'est plutôt les étrangers criminels dehors. Les étrangers sont criminels parce qu'ils sont étrangers. C'est ce qu'ils ont derrière la tête. Le parti, l'alternative pour l'Allemagne, l'a rendu socialement acceptable. Ce parti est représenté au Bundestag et certains citoyens disent, s'ils sont au Parlement, nous on a le droit de penser ainsi et de le dire.
Océane Gobin organise l'exposition.
Je pense que c'est très important de montrer que ce genre de choses existe, que voilà, il y a des gens qui s'engagent, et je pense que ça peut vraiment inspirer les gens, parce que bah, peut-être que moi, personnellement, je ne serais pas venue à l'idée de détourner des tags néo-nazis, et si ça peut inspirer des gens de n'importe quelle génération ou de n'importe où dans le monde, on a réussi notre mission, et si elle peut se sentir soutenue, justement, par notre action, c'est parfait. C'est déjà un petit pas vers plus de démocratie, plus de dialogue dans le pays. Personnellement, j'ai jamais été touchée en tant qu'étrangère, mais je connais des réfugiés syriens qui, ou d'autres pays qui n'ont pas forcément, en effet, la vie facile. Alors c'est parfois voilà, un peu insidieux, on ne le voit pas forcément, ou alors c'est simplement une méfiance globale. On n'est pas dans la région la plus ouverte au monde, je dirais.
Cela fait 35 ans qu'elle traque la haine. Un jour, Irmela décide d'arracher un autocollant néo-nazi sur un arrêt de bus en rentrant du travail. Depuis, dès qu'un acte raciste est commis, dès qu'un parti d'extrême droite fait l'actualité, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle aille sur place, en train, au minimum deux fois par semaine.
J'ai souvent été menacée, agressée, mais je touche du bois. J'ai toujours eu de la chance.
Et vous n'avez pas peur ?
Ma peur, je ne leur montre pas.
Dans la capitale, où elle vit, et son principal terrain de chasse, Irmela revient sur les lieux d'une manifestation autour de la porte de Brandebourg. Il y a eu une manif de Querdenker, ces rassemblements anti-masques dans lesquels se mélangent complotistes, ésotériques et skinhead.
Là, il y en a encore un.
Sur un poteau, elle a repéré un autocollant suspect, spatule à la main. Elle efface, arrache, recouvre les traces de leur passage.
Impfung macht frei.
On peut lire « La vaccination rend libre ». Je me suis sentie très mal. C'est un détournement du travail rend libre. Ce qu'il y avait écrit au-dessus de la porte d'entrée du camp d'Auschwitz.
Les croix gammées qu'elle recouvre de peinture, les stickers qu'elle arrache, elle les photographie et les compile dans des cahiers d'écoliers depuis.
Le 3 janvier 2007. Ça fait 89 760 autocollants. Ça me fait plaisir de détruire la haine dans l'espace public. Ce n'est pas un endroit pour exprimer la haine, je le sais, et c'est le sens de ma vie de ne pas regarder ailleurs, mais de m'en emparer et de la faire disparaître.
Elle dit ainsi poursuivre l'œuvre de son père, un militant antifasciste blessé à Stalingrad. À 75 ans, Irmela Schramm espère maintenant que la jeune génération prendra le relais de ce qu'elle appelle son combat contre la saleté.
Des images d'une valeur historique exceptionnelle. Elles ont été filmées par un détenu originaire de Prague dans le camp de Beaune-la-Rolande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Tchèque Pavel Engelmann faisait partie des milliers de Juifs arrêtés lors de la rafle dite du billet vert à Paris en 1941 et il a réussi à introduire une caméra dans le camp français avant d'être déporté vers Auschwitz. Cette année, ses descendants ont permis au mémorial de la Shoah à Paris de montrer ce film, le récit d'Alexis Rosenzweig.
Pavel Engelmann a quitté Prague pour fuir l'arrivée des nazis en 1939 et se réfugier en France où il pensait trouver la paix. Le 14 mai 41, il est arrêté à Paris après avoir été convoqué par une lettre imprimée sur un papier de couleur verte. C'est la rafle du billet vert. Près de 4000 juifs étrangers et apatrides sont rassemblés par la police française. Ces hommes sont transportés vers deux camps du Loiret, Pithiviers et Beaune-la-Rolande, où le Pragois Pavel Engelmann est enfermé pendant plus d'un an. Il réussit à filmer avec la caméra et la pellicule amenée de sa ville natale. Lior Lalius-Madja est la responsable de la photothèque du mémorial de la Shoah à Paris.
On a identifié Pavel Engelmann comme vraiment l'auteur de ces images. On a des très très belles images de Prague. Et puis après, ça s'arrête net. Et là, tout d'un coup, on voit des images de Beaune-la-Rolande. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça n'existe pas. Nous n'avons aucune image tournée par un interné ou même par un gendarme français ou un allemand dans un camp en France.
Les baraques, les détenus, l'intérieur des dortoirs, le film ne dure que quelques minutes et à la fin, on aperçoit brièvement son auteur avant sa déportation vers Auschwitz.
Il n'a pas survécu. La dernière trace, si vous voulez, qu'on a de Pavel Engelmann, c'est lui-même qui se filme peut-être 2-3 secondes et le film termine comme ça. C'est extrêmement émouvant. Donc on peut imaginer qu'il a tourné ce film peut-être pour sa fiancée, pour lui laisser une trace.
Ce film exceptionnel a été récupéré après-guerre par les deux seuls survivants à Prague de la famille de Pavel Engelmann. En plus de cette vidéo, le Mémorial de la Shoah de Paris vient de faire l'acquisition d'une centaine de photographies inédites de la rafle du billet vert, documentées pour la propagande nazie.
Culturel enfin rouvert en Europe, à l'exception de quelques régions, musées, cinémas, théâtres accueillent à nouveau le public. Alors pour fêter ça, petit tour d'horizon des musées et de leur fréquentation, et même de leur programmation, avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Tout d'abord, un point sur la fréquentation des grands musées, ceux qui sont connus dans le monde entier.
Tout d'abord, un petit rappel du classement des plus grands musées d'Europe, ceux qui ont accueilli annuellement, en 2019, plus de 3 millions de visiteurs. Sur le podium, le Louvre, qui est aussi le plus grand musée du monde, avec près de 10 millions de visites, suivi des musées du Vatican, près de 7 millions, et du British Museum, 6,5 millions. Par pays, ce sont les Britanniques qui dominent avec 5 grands musées, comme le British Museum, la National Gallery, la Tate Gallery, qui reçoivent 28 millions de personnes contre 16,5 millions pour les 3 grands musées français, le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou. 9 pour les 2 musées italiens, le Vatican et la Galerie des Offices de Florence, et 8 millions pour les 2 institutions espagnoles que sont Reina Sofia et le Prado. Un peu sous la barre des 3 millions de visiteurs, n'oublions pas le Rijksmuseum d'Amsterdam et ses 2 700 000 visiteurs. Et puis notons qu'aucun musée allemand ne franchit la barre des 2 millions de visiteurs.
Daniel, dans quel pays les visites culturelles ont-elles le plus de succès ?
Si l'on considère la fréquentation annuelle de l'ensemble du patrimoine, musées, monuments, sites, on voit que le Royaume-Uni vient largement en tête avec quelque 145 millions de visiteurs en 2019. Les sites italiens en reçoivent près de 130 millions, les sites allemands 114 et, c'est une petite surprise, le patrimoine français accueille à peine 90 millions de personnes, dont près de la moitié vient de l'étranger. L'explication réside sans doute dans la grande concentration des musées français à Paris, où sont situés 9 des 10 premiers d'entre eux, le Mucem marseillais étant la seule exception. Les touristes choisissent de visiter 2 ou 3 incontournables établissements parisiens et ont ensuite tendance à faire l'impasse sur les milliers de petits musées de province, les milliers de petits musées de province beaucoup moins connus. C'est une grosse différence avec l'Italie, où les 10 premiers musées se répartissent sur 6 grandes cités.
Est-ce qu'il y a de grandes différences entre les pays ?
Les thématiques varient effectivement. En Italie, on trouve d'abord de l'art ancien, antiquité, renaissance, classique. En France et au Royaume-Uni, art moderne et contemporain sont davantage présents, mais pas autant qu'en Espagne, où rayonnent à Madrid le Reina Sofia, le Guggenheim à Bilbao et le musée Picasso de Barcelone. Enfin, l'Allemagne se distingue par ses grands musées consacrés à l'histoire moderne, par exemple le musée du Mur, ou celui de la terreur nazie à Berlin, ou encore aux sciences et technologies, à l'archéologie, à la zoologie.
Alors qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Vous avez des expositions à nous recommander, Daniel ?
Tout à fait, Juliette, pour n'en citer que quelques-unes, mentionnons l'expo de Donatello à Michel-Ange au Louvre, Néron au British Museum, Dante au Vatican, les passions mythologiques au Prado et une exposition sur l'esclavage au Rijksmuseum d'Amsterdam quand il rouvrira ses portes le 8 juin.
Et est-ce que les mesures sanitaires restent strictes ?
Partout, bien sûr, le port du masque est imposé, mais afin de limiter la fréquentation, la réservation est aussi requise dans la plupart des musées parisiens, dans les musées du Vatican et dans les grands musées londoniens qui, en outre, s'efforcent lors de l'achat des billets d'identifier les éventuels cas contacts. Enfin, au Prado, vous aurez droit à un test de température.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission réalisée par Françoise Grelot et à retrouver sur le site rfi.fr à la page podcast. À bientôt!